Merci Saint-Esprit de venir sur notre assemblée, sur chacun d'entre nous, pour ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, à la parole du Père, à son Fils bien-aimé. Saint-Esprit, tu sais combien nous sommes pauvres et combien sans toi il nous est impossible de nous ouvrir à la grâce même de la présence de Dieu dans cette assemblée, de ta présence. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir trois prêtres, deux prêtres du diocèse de Rennes, un prêtre du diocèse de Toulon, qui vont prier avec nous, et quelques paroissiens pour le diocèse de Rennes qui sont venus aussi, et nous accueillons avec grand plaisir, ainsi que tous ceux qui viennent de loin, parfois même d'autres pays. Vous êtes tous les bienvenus. Le Seigneur nous aime beaucoup et il a décidé que ce temps ici à Saint-Nicolas serait un temps de grâce qui va se prolonger. Un temps où nous pouvons faire la rencontre de Jésus, comme le disait Thibaut tout à l'heure. Pour faire cette rencontre de Jésus, il faut commencer par écouter sa parole, puisque comme Thibaut nous le disait, Jésus, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, il guérissait les malades, il libérait les personnes. Eh bien, il continue aujourd'hui à faire la même chose par son Église, à enseigner, à guérir, à libérer. Et en particulier, c'est notre mission de continuer l'œuvre du Christ pour que chacun puisse être témoin de cette œuvre dans cette assemblée. Du livre d'Isaïe, chapitre 25, à partir du verset 6. Le Seigneur, Sabaoth, prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre, la honte de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur, nous espérions en lui. » Alors, c'est un beau texte qui correspond pas mal à ce que nous vivons au plan de la liturgie, dans les lectures de la messe. Nous sommes dans le temps de l'attente et nous sommes invités à porter notre regard très loin sur la venue du Seigneur, sur les cieux, sur ce qui se passera après le temps de la terre. Et Isaïe, lui, porte par la grâce de l'Esprit qu'il habite son regard très loin. Il voit sur cette montagne un festin que le Seigneur prépare. Alors évidemment, cette montagne, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui, qui est symbolisée par une montagne. Mais la montagne, c'est aussi le lieu où on est le plus proche de Dieu. C'est aussi le ciel, ça symbolise le ciel, auquel nous sommes tous appelés. Et sur cette terre, notre chemin, un jour, débouchera sur une autre vie, soit le ciel, soit peut-être un temps de purgatoire avant d'aller au ciel pour épouster un petit peu notre cœur qui n'est pas totalement prêt à vivre l'amour entier du ciel. Soit pour ceux qui ont refusé Dieu, il y a la possibilité aussi de ne pas aller au ciel, c'est-à-dire d'aller en enfer. Et comme le disait une grande sainte qui s'appelle Sainte Catherine de Gênes, le ciel n'a pas de porte. Ça veut dire que celui qui va en enfer, c'est celui qui ne peut pas vivre l'amour du ciel, parce qu'il ne peut pas se réconcilier avec les autres. Ah, s'il y a un tel au ciel, moi j'y vais pas. Je veux pas le voir. Ah ben oui, mais on sera tous là. Donc, si tu veux pas voir un tel, tu peux pas aller au ciel. Il faudra tous être réconciliés pour vivre ce festin du ciel. Alors, sur terre, on peut avoir des difficultés, mais il faut le vouloir. Demander cette grâce au Seigneur de la réconciliation. Pouvoir être heureux de la présence de tous au ciel, y compris de ceux peut-être qui nous auront persécutés ou qui nous auront pas aimés sur cette terre. Il faut préparer notre cœur à cela, sinon on pourra pas vivre le ciel. Et ce ciel est symbolisé par ce festin de viande grasse, de bon vin, de viande moelleuse, que le Seigneur lui-même a préparé. Le Seigneur lui-même nous a préparé de belles choses pour le ciel. Évidemment, ce sont des images. Quand on sera au ciel, on aura des choses bien plus belles que des festins. On n'est pas là pour une grosse bouffe, si j'ose dire, au ciel. Mais on aura des choses extraordinaires. C'est une image qui symbolise pour les Juifs qui écoutent le prophète, eh bien, une abondance, eux qui sont peut-être dans la pauvreté, qui n'ont peut-être pas de quoi manger, eh bien, voilà que cette image des vins et des viandes succulentes signifie le bonheur impossible à décrire que nous vivrons quand nous irons au ciel, si Dieu nous donne la grâce d'y aller, si nous-mêmes nous Nous acceptons de vivre ce chemin pour y aller, le chemin qui passe par la croix de Jésus. Le prophète Isaïe voit aussi que sur cette montagne, le Seigneur a détruit le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? La difficulté de l'Ancien Testament, c'est que ce n'est pas toujours facile d'interpréter ce que les prophètes veulent dire, parce qu'ils parlent dans une culture qui n'est plus la nôtre, et les images qu'ils utilisent ne sont pas toujours les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il y a un voile? Eh bien, un voile, on peut certainement comprendre beaucoup de choses, mais un voile qui voile les nations, qu'est-ce que fait le voile? Il empêche les nations, les peuples, de voir le ciel, le soleil. Donc un voile, c'est comme des nuages, si vous voulez, qui recouvrent la terre. Et quand il y a des nuages, on a plutôt tendance à être un peu plus triste, même si les nuages, c'est bon, parce qu'on a besoin de la pluie. Donc ce voile, c'est un peu un voile de tristesse qui recouvre les peuples. Pourquoi il y a un voile? Parce que nous ne voyons pas la gloire de Dieu, et donc nous renfermons sur nous-mêmes, et nous sommes dans la tristesse. Alors, évidemment, par la foi, nous pouvons essayer de... Et nous devons essayer de croire en cette gloire qui nous est promise, mais parfois nous nous laissons prendre par la tristesse et nous oublions complètement la gloire de Dieu. Comme il y a beaucoup de nuages, on a l'impression que le soleil ne reviendra plus. Voilà. Mais le Seigneur fait disparaître ce voile et il fait disparaître l'objet principal de notre tristesse, c'est la souffrance et la mort. Nous ne sommes pas faits ni pour souffrir, ni pour mourir. Nous sommes faits pour la vie et la meilleure preuve, c'est que nous ne voulons pas mourir. Si on était fait pour la mort, on serait très content de mourir. Mais comme nous sommes faits pour la vie, nous ne sommes évidemment pas heureux de mourir. Nous sommes faits pour vivre, pour la vie éternelle. La vie éternelle qui est Dieu lui-même, qui nous est donnée en Jésus-Christ. Et le Seigneur essuiera à ce moment-là les pleurs sur tous les visages. Bienheureux ceux qui pleurent, Jésus dit dans ses béatitudes. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Le Seigneur essuiera les pleurs sur tous les visages. Ce ne sera pas un truc général. Allez hop, un grand courant d'air et tous les pleurs sont éliminés. Non, je pense que Jésus viendra sur chaque visage nous embrasser, nous consoler, de manière très humaine, très douce, très forte, comme une maman qui vient consoler son enfant. La Vierge Marie viendra aussi nous consoler, de manière très forte, très douce, très proche. Et c'est ainsi que le Seigneur pourrait être pour chacun de nous une consolation, que l'Esprit Saint nous consolera, que le Père nous consolera. Et on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est notre Dieu, en lui nous espérions, pour qu'il nous sauve, nous espérions en lui, et nous avons eu raison d'espérer. » Nous avons eu raison d'espérer. Quand on espère, comme dit Saint Paul, quand on espère, on ne voit pas l'objet de notre espérance. C'est comme une encre qui est plongée dans l'autre côté du voile, qui nous sépare du ciel, et le côté du voile... Bien l'encre, elle est accrochée, mais on ne voit pas le côté. Donc l'espérance, c'est ce qui nous permet de nous accrocher à la vie éternelle. Mais on ne voit pas la vie éternelle, de nous accrocher à Dieu, mais on ne le voit pas dans sa gloire. Eh bien, à ce moment-là, nous nous dirons, oui, on a eu raison d'espérer. C'est comme si vous faites un pari, au moment où vous gagnez, vous dites, ouais, j'ai gagné, voilà. Et bien là, nous aurons raison d'espérer. Notre espérance nous remplira de joie, parce que nous aurons vraiment le fruit de cette espérance qui est la vie éternelle et la joie éternelle. Alors sur cette terre, ne nous décourageons pas, même s'il y a évidemment beaucoup d'épreuves, peut-être plus certains que pour d'autres, mais s'il y a beaucoup d'épreuves, ne nous décourageons jamais, parce que le ciel est proche, il est derrière ce voile qui fait que le jour où le voile part, et bien, on se retrouvera pleinement au ciel si nous nous sommes préparés à cela, si nous avons reçu la miséricorde du Seigneur. Alors pour espérer, le Seigneur nous donne des signes, et ces signes, ce sont ses guérisons en particulier, toutes les grâces que le Seigneur opère, en particulier dans cette assemblée, mais dans toute son Église, sur la terre entière. Ce sont des signes que le ciel est déjà quelque part présent sur cette terre, dans notre cœur, que le royaume des cieux est au milieu de nous, comme Jésus nous l'a dit. Alors je demande à Catherine de venir nous donner son témoignage. On va entendre Mme Catherine qui va nous témoigner les signes d'amour que le Seigneur lui a donné.
Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis venue pour la première fois à la prière des malades il y a à peu près un an. Et depuis, je viens dès que je le peux. Et je ne me lasse pas de m'émerveiller de toutes les grâces dont notre Seigneur nous comble. savez depuis l'enfance ce que les médecins appellent une attitude scoliotique, c'est-à-dire une déviation légère de la colonne vertébrale. Et c'est pour cela que, selon la recommandation des médecins, j'ai fait beaucoup, beaucoup de natation. J'en ai tellement fait que je suis même devenue sauveteur en mer à 19 ans. Mais avec l'âge, j'ai 45 ans aujourd'hui, des douleurs sont apparues dans le bas du dos. Des douleurs, certes supportables, mais présentes pratiquement tous les matins, et parfois aussi en journée. J'avais beaucoup de mal à porter un sac à main sur l'épaule, des sacs un peu lourds. Le 9 juin 2016, je suis venue à la prière des malades. Et alors que le Saint-Sacrement passait, j'ai ressenti une chaleur très douce dans le bas du dos, avec comme un battement de cœur qui, à chaque battement, repoussait ma colonne vertébrale et la remettait en place. Au même moment, une parole de connaissance disait que toutes les guérisons n'étaient pas annoncées. Depuis, je n'ai plus mal. Je peux porter un sac à main sur l'épaule, même s'il est lourd. Jésus est venu me guérir alors que je n'avais formulé aucune prière. Juste comme ça, par pure bonté, comme il le fait à chaque fois pour nous. Un don d'amour. Vraiment, notre Père qui est au ciel sait ce dont nous avons besoin avant même qu'on le lui demande. Rien n'égale sa générosité, ni sa prévenance toute paternelle. Comme il est bon d'être son enfant. Et le 16 juin 2016, je suis revenue à la prière des malades. Et ce jour-là, le passage de l'Évangile commenté par le Père Thierry disait « Quel mérite avons-nous d'aimer ceux qui nous aiment ?» Alors que le Saint-Sacrement passait dans ses allées, les paroles de cet Évangile sont revenues dans ma tête et j'ai formulé une prière silencieuse en déposant dans le cœur de Jésus tous ceux qui m'avaient fait du mal. Aussi, j'ai été très surprise quand, dans les secondes qui ont suivi, une parole de connaissance disait qu'une jeune femme venait de déposer dans son cœur des personnes qui lui avaient fait du mal et que cela lui avait fait très plaisir. Et pour la remercier, Jésus lui faisait ressentir une très grande joie. C'était mot pour mot la prière que je venais de faire dans ma tête et mon cœur explosait d'une joie intense et profonde. Plusieurs fois par jour, j'essaye de bénir mes ennemis et de prier pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Je terminerai en disant comme il est doux de savoir que notre Seigneur est avec nous à chaque instant, qu'il entend tout ce qu'on dit, tout ce qu'on se dit à soi-même. Je m'émerveille de tant de grandeur et de sa toute puissance. Et je lui rends grâce de prendre si bien soin de ses enfants. Maintenant, je sais qu'il veille sur nous à chaque instant de notre vie. Loué soit notre Seigneur. Amen.
Voilà, donc Catherine nous a témoigné d'une part d'une guérison physique et d'autre part d'une guérison spirituelle. Et en écoutant son témoignage, je dis que la guérison spirituelle lui a donné encore plus de joie que la guérison physique qu'elle a obtenue. Alors je vais donner un autre témoignage de moi-même, je ne donne pas même le prénom de la personne et vous comprendrez pourquoi. Donc il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, une parole qui invitait une personne qui était dans l'assemblée à quitter la franc-maçonnerie. Dans l'assemblée, un homme s'est reconnu et il a été tétanisé, car c'est la deuxième fois qu'il entendait cette parole et il avait peur de faire cette démarche de quitter la franc-maçonnerie. Donc à la fin de la prière, quand tout le monde est parti, il restait là, assis, tétanisé sur sa chaise. Une personne s'est approchée de lui et lui a dit « C'est à cause de la parole sur la franc-maçonnerie que vous êtes tétanisé. » L'autre a été estomaqué que l'autre personne sache cela, il n'avait rien dit à personne. Il lui a dit oui, et l'autre personne l'a invité à prendre un pot avec lui et lui expliquer paisiblement pourquoi la franc-maçonnerie n'est pas dans la lumière de Dieu. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Et maintenant nous allons accueillir le Seigneur qui va venir au milieu de nous, dans le Saint-Sacrement, Jésus dans sa douceur, vient nous libérer, nous donner sa paix, son amour, dont Catherine nous a bien témoigné. Accueillons-le avec foi, accueillons-le avec émerveillement, et ce mot émerveillement qui m'a aussi beaucoup touché dans son témoignage. Amen.